Une nouvelle phase du procès des attentats du 13 novembre commence cette semaine à Paris. La parole est aux avocats des 2400 parties civiles. À l'image de ce procès hors normes, les plaidoiries s'organisent de manière inédite. Les avocats se sont répartis les thèmes comme la radicalisation, le deuil ou encore l'après-attentat. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le président de l'association 13-11-15. Bonjour Philippe Duperron.
Bonjour.
Vous avez perdu votre fils dans les attaques. Il était au Bataclan le soir où les terroristes ont tué 135 personnes à Paris et à Saint-Denis. Comment vous sentez-vous après 8 mois de procès maintenant ?
Évidemment, 8 mois de procès, il en reste encore un mois. C'est une très longue épreuve qui était nécessaire, une très longue épreuve à laquelle nous nous étions préparés. Et nous avons bien sûr hâte que cela se termine par un verdict attendu. Mais c'était nécessaire, c'est une épreuve, encore une fois, que nous attendions tous après ces 5 et plus longues années d'instruction, lesquelles étaient aussi nécessaires par l'ampleur de la catastrophe qui nous a tous frappés.
Vous nous parlez de l'instruction. L'un des avocats a présenté avant-hier une théorie des faits qui remettent en cause les conclusions de l'enquête. Lui assure que les 3 terroristes du Bataclan sont montés au balcon de la salle de spectacle et pas seulement 2 d'entre eux. Est-ce que cette révélation change quelque chose pour vous ?
Oui, c'était très intéressant. Effectivement, cette plaidoirie est très, très documentée, très minutieuse. On a vu l'analyse qu'avaient pu faire les avocats, et ceux-là en particulier. Ce sont ceux d'ailleurs qui s'étaient livrés à l'exercice de la cartographie, ce qui avait été appelé la cartographie des terrasses, la cartographie du Bataclan. Alors, c'est très intéressant. Effectivement, c'est une information qui nous arrive maintenant, après que les faits aient été examinés. Au fond, de mon point de vue, ça ne change pas vraiment la donne. De toute façon, on en connaît le résultat. On sait que ce qui s'est passé, on sait que ce sont les assauts qui ont été donnés d'abord par cet officier de police judiciaire de la BRI, puis ensuite la BRI elle-même, qui ont mis fin à cette attaque et à cet attentat. Donc finalement, de mon point de vue, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais c'est vrai que c'était très intéressant.
Alors avant que les avocats ne plaident, donc à partir du début de la semaine, la Cour avait décidé d'entendre de nouveau des victimes et leurs proches, ce qui est inhabituel dans le déroulement d'un procès. Les parties civiles avaient besoin de parler davantage, selon vous ?
Ah oui, je pense qu'il y avait... On a entendu effectivement au cours des 5 semaines d'octobre s'exprimer toute la douleur, toute cette douleur qui restait encore présente. Alors pour ceux qui ont perdu leurs enfants, leurs parents, leurs proches, comme c'est notre cas, mais pour ceux aussi qui ont survécu. Et finalement, beaucoup qui n'avaient pas imaginé devoir témoigner, beaucoup qui considéraient que c'était au fond inutile, que cela n'apportait rien, ont pris conscience qu'en réalité, ils devaient le faire. Ils devaient le faire pour eux-mêmes, ils devaient le faire pour ceux qui ont témoigné, pour leurs parents, leurs frères, comme ça a été le cas de mon fils Nicolas. Ils devaient le faire pour ne pas regretter, après la fin du procès, de ne l'avoir pas fait, de n'avoir pas rendu ce dernier hommage à celui qu'ils ont perdu. Et pour ceux qui ont témoigné aussi, on a vu que les témoignages s'étaient enrichis en fait de ce qui s'était dit au cours du procès, des témoignages des autres victimes et des interrogatoires des accusés également, de la personnalité des accusés. Tout ça a nourri ces derniers témoignages de victimes.
Et puisque vous nous parlez justement de ces témoignages et de ce que ça peut représenter pour les victimes, j'aimerais vous poser une question. Dans un livre, l'avocate Marie Dosé expliquait récemment qu'il fallait, selon ses mots, délester le procès de la réparation, et elle disait que la justice n'avait pas de valeur thérapeutique. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ?
Non. Non. En tout cas, je pense qu'elle a raison et nous avons aussi raison. C'est vrai que dans la rigueur du principe, la justice n'a pas une vertu thérapeutique. La justice, elle est là pour entendre des faits, examiner des images aussi, que sont celles des scènes de crime, et puis prononcer une sentence. Mais la place des victimes est reconnue dans un procès d'assises. les parties civiles ont leur place, elles sont là pour dire aussi leur douleur. Et c'est vrai que ce procès des attentats du 13 novembre 2015 a fait une très large place aux victimes, mais aussi parce qu'elles étaient tellement nombreuses. Et de fait, il y a bien eu une vertu thérapeutique. Il y a eu effectivement un phénomène de catharsis. On a vu que cette douleur s'exprimait. Certains, pendant de très très longues minutes, parlaient. Et on avait l'impression d'ailleurs qu'ils se parlaient à eux-mêmes plus qu'ils ne parlaient à la cour.
Lors de son dernier interrogatoire, mi-avril, Salah Abdeslam, qui est le principal accusé, qui est le seul membre du commando à être encore en vie surtout, a dit aux victimes et à leurs familles: vous avez la possibilité de faire une chose qui est de pardonner et d'avancer. Est-ce que c'est possible pour vous? Et est-ce que ça changerait quelque chose de pardonner?
Le pardon est une notion assez compliquée. Et de mon point de vue, pour qu'il y ait pardon, il faut d'abord qu'il y ait repentir, contrition. Et on n'a pas eu, en tout cas, si Abdeslam et d'autres peut-être, a fait un petit bout de chemin, en tout cas il n'a pas, de mon point de vue, accompli la totalité de ce chemin de repentir, puisque jamais il n'a condamné expressément les attentats qui ont été commis, jamais il n'a vraiment condamné la tuerie à laquelle il a été, dont il était quand même, à laquelle il est associé. Et par conséquent, il ne peut y avoir de pardon sans qu'il y ait l'expression d'un repentir sincère et total, et ça n'est pas le cas. Et en toute hypothèse, je ne suis pas disposé à accorder mon pardon, même si je n'ai pas de haine, mais en tout cas pas de pardon.
Philippe Duperron, votre association a pris la parole cette semaine pour demander le rapatriement des 200 enfants de djihadistes français qui sont toujours détenus en Syrie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous associer à cette démarche, qui est un appel qui est lancé depuis déjà de nombreuses années?
Eh bien, notre association porte dans sa dénomination finalement la fraternité, qui est un des piliers sur lesquels reposent nos actions. C'est la main tendue, c'est l'humanisme et l'humanitaire. Et dans les buts de l'association compte également la prévention de la radicalisation. Et il nous semble que justement à l'heure du procès des attentats, alors que les accusés de ceux qui ont commis ou participé aux faits sont traduits devant la justice de la République, il nous semble qu'une action doit être menée pour que la justice passe également pour ces enfants. La justice pour eux, c'est le rapatriement et la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dans la perspective de leur retour dans leur famille et notamment vers les grands-parents. Et la justice, c'est aussi que les mères soient traduites devant les tribunaux français pour répondre de ce qu'elles ont fait et commis. Mais en aucun cas, les enfants qui sont finalement victimes des errements de leurs parents ne doivent répondre de ces actes au titre finalement d'une forme de vengeance plutôt qu'une forme de justice.
Pour l'instant, en tout cas, les autorités françaises préfèrent toujours le cas par cas et il n'y a pas eu de rapatriement depuis près d'un an et demi maintenant. Merci beaucoup Philippe Duperron d'avoir été avec nous, président de l'association 13-11-15.